Morning Edition from NPR News.
Let's eat in San Pinto House. Hi,
I'm Radio Rosalie Paris.
Borussia get to the radio.
France Inter. Le 18-20.
Et dans un tout petit instant, vous ferez la connaissance de Simon Leplâtre, que vous entendez évidemment ici depuis Shanghai, qui est rentré en France pour souffler un peu au milieu d'un confinement très très rude pour tout le monde. Il va nous raconter le sien, il va nous raconter la Chine aujourd'hui, une ville aussi Shanghai qui est en train de s'ouvrir et qui paye peut-être en partie sa stratégie zéro Covid. On y viendra en allant aussi faire un aller-retour à Pékin. Le bruit d'une bombe, ce soir, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet, comme chaque lundi, avec Natalia qui nous parle depuis Saint-Pétersbourg. Le bruit du monde de la suite, sous les radars, Sébastien Logénie a trouvé une explosion au Bangladesh qui tue 49 personnes, deux haltérophiles iraniennes qui décident de rester en Allemagne, et puis la plus grande ville souterraine du monde découverte en Turquie. 18h50, l'Amérique de Joe Biden et Sébastien Paour, ça va pas mieux sur le front des armes, ça va un peu mieux sur le front du lait pour bébé. 18h55, le monde d'après de Claude Guibal et Wagner qui s'implante aussi au Soudan. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Simon Leplâtre.
Bonsoir.
On est heureux de vous avoir avec nous, Simon. On vous entend évidemment ici le plus régulièrement possible. On vous lit aussi dans Le Monde. On va discuter aussi avec Sébastien Berriot, qui est le correspondant de France Inter à Pékin, dans un tout petit instant. Vous êtes à Shanghai. Et on va le dire carrément, Simon, vous avez eu besoin de rentrer en France, besoin de souffler. Vous avez la chance, parce que c'est possible quand on est expatrié, vous allez nous l'expliquer. Mais oui, c'est long, c'est difficile, c'est un enfermement au plein sens du terme.
Ouais, 2 mois, c'était vraiment long, et donc autant au départ, ça allait plutôt bien, il y avait un côté intéressant de vivre une expérience comme ça. Autant au bout d'un moment, l'isolement pesait, et puis c'est ça. Enfin, au fur et à mesure, il y a une anxiété qui monte avec le fait de jamais savoir si on risque d'être emporté, quand est-ce qu'on va être libéré, dans quelles conditions, etc. Donc 2 mois, c'est long, et j'ai décidé de rentrer un peu.
Et vous avez bien fait. À quoi ça ressemble au début, Simon ? C'est-à-dire effectivement, quand on apprend que ça ferme, et quand on vit chez comme vous dans un pays comme la Chine depuis un certain temps, est-ce qu'on se dit oh, ça va durer quelques jours, une semaine ou deux au maximum, et puis de toute façon la Chine ne peut pas se fermer intégralement, ou est-ce que là vous vous êtes dit oulala, ça sent pas bon? Comment ça commence en fait?
Alors moi j'ai été assez naïf parce que j'ai cru le gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous avait promis que ça durerait 5 jours, donc moi je me suis préparé pour 5 jours, et j'avoue que j'étais
Vous avez cru le gouvernement, vous êtes devenu très très chinois, Simon, finalement.
C'est ça. Mais j'ironisais même sur les gens qui faisaient des stocks pour 2 mois.
Ouais.
Donc qui voilà, rira bien qui rira le dernier. C'est eux, pas moi. Et donc au départ, en fait, ça a été assez progressif. Mais ce qui a surpris, c'est que dans un premier temps, on avait l'impression que Shanghai adoptait une stratégie un peu différente. Ils n'ont pas confiné tout de suite. On avait déjà quelques milliers de cas, ce qui était énorme pour une Chine qui suivait la politique vraiment zéro Covid, et où ailleurs on confinait pour quelques dizaines de cas. Mais Shanghai, la capitale économique, la ville la plus peuplée de Chine, a adopté une stratégie un peu différente. Et c'est pour ça que le nombre de cas a vraiment augmenté jusqu'à atteindre 27 000. Shanghai, finalement, sous la pression de Pékin, a été obligé de confiner. Donc, c'est cette hésitation, en fait, sur la stratégie qui a fait qu'ensuite, le confinement a dû être très très long, parce que pour passer de 27 000 à quasiment zéro, il fallait 2 mois.
Et alors, à quel moment vous comprenez que il faut faire comme tout le monde? Il va falloir faire des stocks, il va falloir tenir, il va falloir s'occuper. À quel moment vous comprenez ça, vous, Simon? Est-ce que le téléphone circule entre expatriés ou dans la résidence où vous habitez avec vos voisins chinois? Ça se passe comment en fait?
Moi, je l'ai compris un peu trop tard puisqu'on était déjà confinés. Donc, on a eu quand même quelques jours pour se préparer puisque la ville avait été confinée en 2 temps. Nous, on l'a été quelques jours plus tard. Donc, j'ai quand même pu faire quelques stocks. Et en fait, on l'a compris quand la ville n'a pas été rouverte après les 5 jours promis. Mais là, on était confinés, donc c'était un peu tard pour se préparer. Ensuite, de toute façon, à part des pâtes et du riz, les légumes frais qu'on pouvait avoir à l'avance, ils n'allaient pas durer 2 mois. Donc il y a un moment effectivement où je commençais à avoir plus grand chose dans le frigo, et c'est là qu'ont commencé les distributions alimentaires du gouvernement, mais c'était très aléatoire. Donc moi, il y a eu une bonne semaine où voilà, ce que j'avais dans l'assiette, c'était pas très rigolo, quoi.
Donc on commence à se restreindre, en fait on comprend qu'il faut se s'auto-restreindre pour être sûr d'avoir quelque chose. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, ou est-ce que encore une fois entre voisins vous vous dites ils vont pas revenir à temps, ou alors si t'inquiète pas ils vont revenir, comment ça se passe?
À ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de communication entre voisins, ouais. Ça s'est organisé plutôt après. Et donc, moi, je me renseignais un peu, mais il n'y avait pas encore les groupes chat, par exemple, ouais. Qui permettaient de faire des commandes groupées, parce que justement, le confinement n'était pas censé durer. Donc, il n'y avait eu rien d'organisé pour un confinement de 2 mois. Donc, il y a eu effectivement, pour moi, c'est ce moment-là qui a été un peu le plus dur en termes d'approvisionnement. La deuxième, la troisième semaine où on n'avait pas grand-chose, et puis ensuite, effectivement, il y a eu des groupes sur l'application WeChat qui ont été mis en place, et on a pu un peu commander avec les voisins, parce qu'en fait, les commandes individuelles ne fonctionnaient plus du tout, puisque tous les livreurs, ils étaient confinés comme nous. Et donc là, on passe une nouvelle phase où en fait, on passe de bon, il n'y a pas grand-chose dans le frigo, mais on n'a pas trop le choix, à l'anxiété de ah, en fait, il y a des choses qu'on peut trouver. Du coup, tout le monde se refile des tuyaux. On vous envoie des liens vers des applications, des trucs, mais qui finalement marchent plus le temps que vous essayez. Donc tout le monde passait 2 heures par jour à essayer de commander des choses. Et puis au bout de, je sais pas, peut-être à 1 mois du confinement, ça s'est tassé un petit peu, et l'approvisionnement a commencé à se stabiliser un peu. Par contre, on mangeait pas ce qu'on voulait. Ouais, on mangeait ce que le gouvernement nous donnait, ou ce qu'on arrivait à commander. Moi, j'ai eu des commandes du tout début du mois qui sont arrivées la veille de mon départ.
Ah oui, c'est un peu un souci. Et qu'est-ce qui vous nourrit, comment le gouvernement il vous nourrit de riz, de choses comme ça? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est des gars tout en blanc qui déposent au bas de l'immeuble de la nourriture pour tout le monde? C'est comme ça, c'est à ça que ça ressemble?
Ouais, donc en fait les livraisons étaient très très aléatoires. On a eu des fois des légumes, un petit peu de viande, peut-être 2 fois en 2 mois. Mais d'autres résidences ont eu beaucoup moins et n'ont jamais eu de viande. Et effectivement, c'est des camions qui livrent. Et ensuite, c'est les volontaires des comités de résidents qui sont devenus ceux qui contrôlaient nos vies, qui distribuaient ça au porte-à-porte. Ouais.
Et qui, vous dites qui contrôlaient nos vies, en fait. C'est comme ça que vous l'avez vécu.
Parce que tout d'un coup, ces gens-là qu'on voyait jamais, qui avaient très peu d'importance, ou alors on les voyait des fois avec un brassard, des personnes un peu âgées, souvent c'est des retraités, on les voyait assis dans la résidence, mais ils avaient pas beaucoup d'importance. Tout d'un coup, c'est eux qui nous approvisionnent, mais qui aussi nous donnent l'ordre d'aller se faire tester le matin, qui viennent tambouriner à la porte à 8 heures, qui se baladent avec les fameux haut-parleurs que j'ai entendus pendant 2 mois tous les matins. Donc voilà, effectivement, notre vie était complètement à la merci des autorités.
C'est très totalitaire, en fait, d'utiliser des gens à l'intérieur même de la résidence pour servir de policiers, de gendarmes à l'intérieur même de la résidence, en fait. C'est très d'un régime totalitaire, au fond, non, Simon?
En fait, les comités de résidents, ils avaient toujours à la fois un rôle à la fois de un peu d'assistance sociale et de gendarmes, de délateurs.
Et donc, et de délateurs aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens dans l'immeuble, par exemple, dans la résidence, qui se sont fait embarquer parce qu'on refuse les tests ou des choses comme ça. C'est arrivé chez vous ou pas?
Alors, moi, c'est pas arrivé que les gens se fassent embarquer pour ça, mais effectivement, parce que au bout d'un moment, les gens étaient fatigués, on avait marre d'aller se faire tester. Il y a un moment, pendant 3 semaines, c'était tous les jours. Donc les gens ne descendaient plus. Les volontaires ont commencé à organiser. Et ben en fait, ils faisaient l'appel. Ils avaient leur petite liste et puis ils vérifiaient bien que chacun y allait. Et Shanghai, c'est pas une petite ville de Chine. Là, j'ai vu hier que dans une ville de Chine a dû arrêter de mettre les gens en prison pour 10 jours parce qu'ils refusaient de se faire tester. Bon, ça arrive un peu moins facilement à Shanghai, mais effectivement, on pouvait se faire menacer si on obtempérait pas.
Est-ce que vous vivez dans une résidence où il y a beaucoup d'expatriés comme vous, Simon Le Plâtre, ou pas? Parce que je m'interroge sur le fait que, est-ce que d'autres Chinois vous posez la question, vous qui êtes français, ou pour les voisins, vous qui êtes allemand, vous qui êtes canadien, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous êtes vu différemment? Est-ce que les gens ont l'impression que vous avez un peu des passe-droits parce que vous êtes étranger? Comment ça se passe, la cohabitation?
Ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses qu'on ressent déjà au quotidien, mais qui sont exacerbées là dans une situation où tout d'un coup on est tout enfermé. Donc il y a une espèce d'ambiance de village puisque on peut avoir des interactions qu'avec ses voisins. Donc tout ça est beaucoup plus intense. Et effectivement, moi j'habite dans le centre de Shanghai, dans une résidence plutôt ancienne. Donc c'est pas un immeuble, c'est des petites ruelles de 2-3 avec des maisons de 2-3 étages, avec beaucoup de personnes âgées. Et aussi, comme on est dans le centre, pas mal d'expatriés. Donc on était une vingtaine sur peut-être 200 habitants. Et effectivement, il y avait à la fois un côté, des fois, on avait l'impression qu'on était un peu regardé de travers parce que il y a eu toute une propagande sur aujourd'hui la Chine, grâce au zéro Covid, est propre, mais le virus est désormais importé de l'étranger. Donc, de ce fait-là, il y a un peu
un regard un peu
suspicieux. On est pointé du doigt, quoi. Et en même temps, moi, je voyais qu'en tant que journaliste, il y a des fois où, quand je discutais avec les voisins, il y avait des gens qui me demandaient mais vous pouvez vraiment raconter ce qui se passe, ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire contrairement aux médias chinois qui, eux, ne peuvent pas raconter ce qui se passe.
Et jaloux un peu, j'ai mis évidemment des guillemets, parce que vous pouvez partir. Vous avez pu finir par prendre un avion, ce qui est évidemment pas le cas pour les autres. Est-ce qu'il y a ça aussi? Vous avez le droit de sortir, pas nous.
Alors sur le départ, ça je l'ai pas raconté à tous mes voisins, c'était plutôt des amis de mon âge qui étaient pas des voisins et qui il y en a certains qui aimeraient bien partir effectivement et qui le peuvent pas. Par contre là où il y avait un peu de jalousie, c'était par exemple sur la question des envois dans les centres d'isolement.
Ouais. On vous aurait pas envoyé en isolement vous si vous avez été positif.
Parce que les Chinois voyaient bien que les étrangers avaient un petit peu plus de marge parce qu'éventuellement leur consulat allait intervenir pour essayer soit qu'on les envoie dans des hôtels plutôt que dans les centres, ou dans des centres avec des conditions un peu moins spartiates ou que certains puissent rester chez eux.
Vous allez rester avec nous, Simon. Évidemment, je voudrais saluer Sébastien Berriot qui est avec nous. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir.
Depuis Pékin, chez vous, Sébastien, à Pékin, on n'a pas osé, j'ai envie de le dire comme ça d'ailleurs, on n'a pas osé fermer tel qu'on a fermé à Shanghai. Et pourtant, il y a quand même eu des lieux qui ont été sévèrement fermés. En revanche, quand on lève, et c'est le cas en ce moment, on a sévèrement levé à Pékin.
Oui, effectivement, toutes les restrictions sanitaires qui étaient en place depuis plusieurs semaines, parfois très dures. On a vu aussi à Pékin des gens qui ont été évacués vers des centres de quarantaine, parfois très loin d'ailleurs de Pékin. Donc tout cela est maintenant terminé ici. L'ascenseur, si je puis dire, est en train de redescendre et ça se fait de manière assez rapide. Il y a eu d'abord la fin du télétravail obligatoire, la réouverture des commerces non essentiels. Depuis ce matin, les restaurants sont autorisés à recevoir à nouveau des clients, les terrasses ont commencé à se remplir donc un peu partout et on sent vraiment un soulagement dans la population parce que ce que redoutaient les gens ici, les Pékinois, c'est de se retrouver comme à Shanghai avec un confinement généralisé. Certains jours, la rumeur disait qu'on n'était pas loin d'une telle décision. Finalement, la décision n'a pas été prise, mais tout simplement parce qu'ici, à Pékin, le nombre de cas est resté très limité. On disait 27 000 certains jours à Shanghai. Ici, le nombre total de cas depuis fin avril n'a pas atteint 2 000.
Sébastien, moi, ce qui m'impressionne, parce que vous nous l'avez déjà raconté ici, on a vu un certain nombre de reportages, ce qui m'impressionne, c'est la transgression. Parce qu'il y a eu une vraie transgression des Chinois qui sont sortis. On en a vu certains qui sont allés se baigner, même. On a vu des espèces de fêtes clandestines et on se dit que on n'est pas en France. Il faut être sacrément courageux pour jouer à ça. Est-ce qu'il y a eu ce petit jeu de chat et de la souris avec les autorités chinoises pendant toute cette durée d'un semi-confinement très bizarre?
Ah bah oui, complètement. Les habitants, les Pékinois ont montré à l'occasion de cette crise leur côté un petit peu, on va dire, rebelle. Une certaine forme de résistance, en tout cas, s'est développée pour contourner les mesures sanitaires, tout simplement pour essayer d'avoir un petit peu de plaisir dans cet océan de restrictions. Donc effectivement, des fêtes sur le bord de certaines rivières, des pique-niques organisés dans certaines rues. Et lorsque la police intervenait pour mettre un terme à tout ça, eh bien les gens, les groupes se déplaçaient parfois pas très loin, à quelques centaines de mètres plus loin. Les autorités ont installé des grillages, des palissades pour essayer de limiter les attroupements. Mais tous les soirs, les jeunes Pékinois n'hésitaient pas à sortir. Au final, On peut dire qu'il y a eu une certaine tolérance quand même. Mmh. Les forces de l'ordre, forcément avec toutes les caméras, savaient ce qui se passait, mais à certains endroits, on fermait les yeux sur le non-respect des règles sanitaires.
Une dernière chose, et rapidement, pardon, Sébastien, est-ce que vous avez le sentiment que la population va oublier tout ça, passer à autre chose ? Est-ce que quand même, il y a quelque chose qui a été entamé vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de Xi Jinping, et que précisément, plus rien ne sera comme avant, y compris dans le regard que les Pékinois peuvent avoir vis-à-vis de leur gouvernement.
Oui, ça c'est clair, cette crise va laisser des traces. Hein. On a vu sur les réseaux sociaux, même avec la censure, la colère d'une partie de la population qui s'est exprimée. Certains Chinois ont beaucoup souffert, ils ne vont pas oublier tout ça. Il y a eu des manifestations d'étudiants, on en a vu à Pékin, à Tianjin. Donc forcément, ça va rester dans toutes les mémoires. Alors est-ce que ça peut avoir des conséquences politiques dans une année très sensible pour le pouvoir chinois avec le congrès du Parti communiste au mois de novembre? Personne ne sait précisément au sein du parti ce qui se dit, s'il y a de la réelle contestation. En tout cas, celui qui est dans une position qui n'est pas forcément confortable, c'est le président Xi Jinping, parce que c'est lui qui incarne cette stratégie zéro Covid qui, pour la première fois, a conduit le pays dans une situation, on va dire, plutôt compliquée.
Merci beaucoup, merci vraiment Sébastien Berriot. Simon Leplâtre, ce qu'on retiendra de Shanghai, et c'est le sens de la même question que je vais vous poser, ce sont les cris, la nuit qui glaçait vraiment le sang. J'imagine que ça vous a glacé le sang vous aussi. Qu'est-ce qu'il en restera à Shanghai de cette période-là, selon vous? Est-ce que là aussi quelque chose s'est brisé?
Je pense que pour beaucoup de gens, ça a été l'occasion d'ouvrir les yeux sur la réalité du régime. Et je dis à la fois les Chinois eux-mêmes et les expatriés. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des affaires, qui avaient l'impression que Shanghai c'était une ville un peu à part. Certes, il y a des abus sur les droits de l'homme ailleurs en Chine, mais bon, Shanghai c'est une grande métropole internationale. Et puis voilà, il y a des restaurants sympas. Enfin, on se sentait à part. Et ça, c'est le cas aussi chez les Chinois et notamment les Shanghaïens de souche, je dirais. Qui avaient l'impression qu'ils étaient privilégiés, et beaucoup m'ont dit qu'ils ont été très très déçus vis-à-vis évidemment du gouvernement de Shanghai, mais du coup a fortiori vis-à-vis des autorités en général.
J'espère que vous avez laissé votre chat derrière vous qui vous a pourtant tenu compagnie pendant ces deux mois de confinement. C'est mal. Qu'est-ce que vous en avez fait?
Je l'ai laissé à une famille d'expatriés allemands qui prendront bien soin d'elle.
Voilà. Et il paraît que vous l'avez vous-même récupéré d'une famille d'expatriés canadiens. On est au courant de tout, Simon Leplâtre. C'est mal de se refiler le chat, je voudrais vous le dire.
C'est ça. Au début de cette politique zéro Covid, on me l'avait confié en me disant on la récupérera quand les frontières de Chine rouvrent.
Et ben voilà, et les frontières sont pas ouvertes, mais au moins le zéro Covid pour l'instant est terminé. Simon, on vous souhaite pas un bon retour, pas pour l'instant, parce que vous allez rester pendant un certain temps soufflé encore. Juste, je vais me faire engueuler par Tristan, le réalisateur. Est-ce qu'on se dit quand on est, y compris journaliste, Simon, est-ce qu'on se dit je suis pas sûr d'avoir envie de rentrer parce que je veux pas revivre ça une deuxième fois, ou est-ce que c'est bon, vous rentrerez très tranquillement chez vous à Shanghai?
C'est un peu la question. C'est pour ça que même j'ai hésité à partir fin mai. Parce que je me disais, si je pars maintenant, j'ai aucune envie de revenir. Alors que je me disais, peut-être que si j'attends un peu le déconfinement, je repartirai sur une meilleure note. Mais en fait, là, ce qui se passe, et c'est vraiment de ça que j'avais peur, c'est que on continue à voir qu'il y a des résidences par-ci, par-là qui sont confinées. Là, juste en face de ma résidence, il y a des gens qui sont encore envoyés en hôtel, etc. Donc, pas de regrets.
Bon, bah écoutez, vous nous raconterez la suite. En tout cas, c'était avec grand plaisir qu'on vous a reçu chez nous dans Un jour dans le monde, Simon Leplâtre. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gilles, et comme chaque lundi avec Natalia qui nous appelle de Saint-Pétersbourg, et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
Un nouveau drame industriel au Bangladesh ce week-end, 41 morts dans un incendie de produits chimiques.
Le Monde selon Joe Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous, on parle de nouveau des armes à feu. Au Congrès, 4 mesures auraient pu changer le cours de 35 fusillades depuis 1999, 446 morts au total.
Le Monde d'après, Claude Guibal. Bonsoir Claude.
Bonsoir, nous on ne présente plus bien sûr les paramilitaires de Wagner. En Afrique, on les savait au Mali, au Mozambique, en Centrafrique, et bien les voilà aussi au Soudan.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par l'Écosse avec Finley Quay, Sunday Shining sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Make it. We'll be right back. Le bruit du monde, le lundi, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Ici donc tous les lundis, vous partagez les messages envoyés par ceux et celles qui observent et subissent le conflit en Ukraine. Mais depuis 100 jours, vous nous proposez aussi régulièrement de retrouver Natalia. C'est une jeune femme qui est russe et qui témoigne sous pseudo. Elle vit à Saint-Pétersbourg et depuis qu'on la connaît, on a observé sa progressive mise sous silence en fait.
Oui, Natalia dans ses premiers messages ici racontait les manifestations contre la guerre auxquelles elle participait, puis c'est devenu trop dangereux, elle a cessé d'y aller. Et le 2 mai dernier, elle parlait ici de son choix de quitter la Russie pour aller s'installer en Jordanie avec son copain. Elle ne supportait plus de vivre dans un pays agresseur, de voir beaucoup de compatriotes soutenir le conflit. Elle passait son temps à tenter de contourner la censure pour s'informer. Elle voulait plus de liberté.
Et donc elle est partie pour la Jordanie, on s'en souvient. Pourquoi ce choix d'ailleurs ?
Et ben parce que c'est une des destinations pour lesquelles les Russes peuvent encore acheter des visas. Mais une fois là-bas, elle nous avait envoyé des messages dans lesquels elle expliquait la difficulté de survivre. Avec les sanctions, impossible de sortir ses roubles de Russie. Elle continuait de travailler à distance, mais ne pouvait pas toucher son salaire. Elle subissait aussi beaucoup de remarques quand il fallait dire qu'elle était russe. On n'avait plus de nouvelles de Natalia depuis un moment, et puis j'ai reçu ceci.
Bonsoir, je suis vraiment désolée. Il y a beaucoup de choses qui ont passé. Je ne sais pas comment je peux commencer. En Jordanie, j'ai perdu mon passeport international. Je n'avais qu'un passeport russe. Et le passeport russe ne sert à rien à l'étranger. J'étais vraiment stressée. Et j'étais obligée de quitter Jordanie parce que je ne pouvais pas faire un nouveau visa parce que je n'avais pas de passeport. Et c'était vraiment très compliqué de revenir en Russie sans passeport. J'ai gaspillé beaucoup d'argent, voilà, pour ces billets. Et je suis revenue en Russie. Et je me sens vraiment bizarre. Pour le moment, je pense que je veux rester en Russie. Et c'est une question très difficile parce que rien n'a changé. La guerre continue. Il y a les gens qui supportent cette guerre en Russie, quand même. Il n'y a pas beaucoup, mais quand même, il existe. Et je peux les voir. Mais j'ai compris que je ne me sens pas à l'aise à l'étranger.
Parce que je travaille, je gagne de l'argent et je ne peux pas les utiliser. Et c'est pas vraiment possible pour moi de trouver un travail en Jordanie.
Je me sens très stressée parce que j'ai dit à tout le monde que je veux quitter. J'ai quitté même si je ne perdais pas mon passeport, quand même je comprenais que je reviendrais. Voilà. Juste cette perte, ça me fait bouger plus vite. Bien sûr, ma famille est contente que je sois revenue.
Et alors, Caroline Natalia s'est donc installée dans sa ville natale, elle est revenue chez ses parents.
Chez ses parents, oui, elle a repris son ancien boulot à distance et elle a enfin accès à son compte en banque. Mais ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'est plus tout à fait la même quand même.
Je travaille, je me promène, et je ne parle pas de la guerre, je ne lis pas de nouvelles, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas YouTube. Je n'ai rien à raconter.
Natalia espère retourner à Saint-Pétersbourg en septembre. Elle dit qu'il y a des clients, touristes et étudiants chinois qui reviennent là-bas petit à petit. Mais en attendant, elle ne se sent pas très bien.
La situation qui passe, c'est vraiment très difficile. Je sens que je n'ai pas vraiment d'envie de parler en général. Pas en particulier avec vous, juste en général. J'aime beaucoup discuter, donner les nouvelles. Je suis vraiment une personne qui aime la communication. Mais le dernier temps, je ne sais pas. Mes parents regardent la télé. Normalement, ils ne regardent que les programmes humoristiques avec les blagues ou les programmes où les gens voyagent dans les régions différentes. Mais maintenant, c'est très difficile à trouver quelque chose comme ça parce que presque tous les programmes qui sont à la télé, malgré le temps, le soir, le matin, l'après-midi, presque tous les programmes sont liées à la politique. Voilà. Moi, je suis dans une autre pièce. J'ouvre la fenêtre et je vois beaucoup d'arbres. À Saint-Pétersbourg, ce n'est pas possible. Et ici, il y a les montagnes, les arbres, et c'est très, très calme. Juste l'eau coule, c'est l'eau d'air conditionnel. Normalement, en été, tout le monde sort. Tout le monde boit un verre. L'été, c'est le temps quand les gens voyagent. Mais cet été, personne ne voyage. Si je parle de membres de ma famille, de mes amis, les gens juste travaillent et restent à la maison.
Voilà, personne ne voyage. Je retiens qu'elle a dit « Je me sens vraiment bizarre et je n'ai rien à raconter ».
Oui, c'est Nathalie. Elle a beaucoup changé depuis qu'on la connaît.
Merci à elle, en tout cas, de nous raconter vraiment ce qu'elle traverse. On l'accueillera avec plaisir une nouvelle fois. Et merci à vous aussi,
merci,
Caroline Gillet. On se retrouve évidemment lundi prochain. Et sous les radars avec vous, Sébastien Logénie, ce sont d'abord des centaines de sirènes de pompiers au Bangladesh endeuillés après un nouvel accident industriel meurtrier.
C'était dans la nuit de samedi à dimanche, un entrepôt de 4000 conteneurs en flammes, incendie d'origine encore inconnue. Au sud du pays, à quelques kilomètres du port de Chittatong, le principal port du Bangladesh, des centaines de pompiers donc sont dépêchés sur place pour éteindre le sinistre qui s'est propagé à plusieurs conteneurs pleins de produits chimiques. Mais une heure plus tard, une gigantesque explosion ravage le site. On peut l'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Les témoins racontent avoir vu pleuvoir des boules de feu, scène d'apocalypse, des dizaines de pompiers, d'ouvriers brûlés vifs, 41 morts, 300 blessés. Une catastrophe qui n'est pas sans rappeler celle du port de Beyrouth en 2020. Les journalistes bangladais dénoncent depuis hier la corruption et le mépris des règles de sécurité par l'entreprise propriétaire des lieux. Les autorités du dépôt n'ont pas informé les pompiers de la présence de produits chimiques. Il n'y avait aucun plan de sécurité anti-incendie, alors que 600 personnes travaillaient sur les lieux et que le dépôt contenait du peroxyde d'hydrogène très inflammable. Le Bangladesh régulièrement touché par des accidents industriels. En 2019, 70 personnes déjà sont mortes à Dhaka. Dans des immeubles d'habitation étaient stockés illégalement des produits chimiques.
Et direction l'Iran qui a perdu deux de ses meilleurs haltérophiles en quelques jours.
Et on parle ici, Fabienne, d'haltérophilie féminine. Il y a un mois, coup sur coup, en effet, deux athlètes de niveau international ont fait le choix de fuir leur pays. Il y a d'abord eu Yekta Jamali, une jeune haltérophile de 17 ans qui a profité de son déplacement au championnat du monde junior en Grèce pour quitter son hôtel direction l'Allemagne. Et cette première fuite au mois de mai a fait la une des journaux télé iraniens, comme on l'entend. Deux jours après, c'est une autre athlète, Parisa Jahanfekriant, qui publie un post sur Instagram pour annoncer elle aussi son départ pour Berlin. « Je suis la moitié oubliée de l'Iran », dit-elle. « Je suis née parmi la moitié humiliée, limitée de la société, mais je suis d'une génération qui n'accepte pas l'humiliation et la restriction. Je suis partie pour dénoncer toutes ces restrictions. » L'histoire de Parisa, c'est qu'elle aurait dû être la première iranienne à participer au JO en haltérophilie féminine. Une place s'était libérée aux Jeux Olympiques pour elle, mais le Comité National Olympique d'Iran a refusé sa participation, car les conservateurs ne supportent pas l'image qu'elle renvoie. Pour un acteur, par exemple, proche du régime des Mollahs, l'haltérophilie féminine est contraire à la maternité, un sport qui, selon lui, ferait perdre leurs ovaires aux athlètes. Pour un député, elles sont le modèle des femmes voyous, sans compter avec leur paye ridicule, 90 dollars en 3 ans, alors que les hommes sont salariés de la fédération. Bref, ces deux athlètes ont pris le risque de s'exiler pour pouvoir enfin exercer leur sport. Ces dernières années, une trentaine d'athlètes iraniens ont fait défection des équipes iraniennes et ont demandé l'asile dans d'autres pays.
On termine, Sébastien, en Turquie, où des archéologues ont peut-être découvert la ville souterraine la plus grande du monde.
Nous sommes ici, oui, en Anatolie, au sud de la Turquie, dans la ville de Midyat, une petite ville peuplée depuis des siècles de chrétiens syriaques, une enclave chrétienne orthodoxe en plein désert, connue pour son patrimoine historique. Et c'est au cours de banals travaux de rue qu'un directeur de musée a fait la découverte d'une gigantesque caverne. Des fouilles sont alors engagées, une exploration qui va mener des archéologues à découvrir non pas une, mais des dizaines de cavernes, un vrai réseau de galeries souterraines qui serait unique au monde.
Şu an biz sadece %3'ünü kazdık.
On entend là le chef des fouilles. Il raconte avoir découvert un couloir d'une centaine de mètres de long qui dessert près de 50 pièces différentes, mais aussi des lieux de culte, des églises chrétiennes qui remonteraient au 2e ou 3e siècle. C'est l'époque, en effet, où l'Empire romain n'a pas encore reconnu le christianisme comme religion officielle. Les chrétiens sont alors traqués, ils se cachent, s'enterrent même pour exercer leur culte. Et c'est probablement ce qui s'est passé ici à Myriat. Les archéologues disent n'avoir exploré que 3% de la ville. Ils estiment que 60 000 à 70 000 personnes auraient pu y vivre.
Merci beaucoup, fascinant, merveilleux aussi. Merci beaucoup Sébastien Logeni. On se retrouve évidemment demain, direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde.
L'Amérique de Biden et Sébastien Paour. Sébastien, l'Amérique a encore fort à faire avec les armes. Cette semaine, le pays est encore sous le choc, évidemment, des 21 morts de l'école du Valdé au Texas. Il y en a eu d'autres depuis. Les démocrates essaient de faire passer une loi au Congrès pour faire baisser le nombre de ces fusillades. Évidemment, c'est pas gagné du tout.
Non, deux sénateurs, le démocrate du Connecticut, Chris Murphy, et le républicain du Texas, John Cornyn, travaillent ensemble depuis Uvalde. Ils essaient de parvenir à un ensemble de mesures qui pourraient recueillir les 60 voix nécessaires et passer au Sénat. Mais effectivement, c'est loin d'être gagné. Côté démocrate, on part du constat que 4 mesures auraient pu changer le cours d'au moins 35 fusillades de masse depuis Columbine en 99. 35 fusillades qui ont fait 446 morts. Alors, ils proposent d'augmenter l'âge minimum de 18 à 21 ans pour acheter certaines de ces armes à feu, d'imposer une vérification des antécédents en matière de santé mentale ou de casier judiciaire, d'encourager le stockage des armes en lieu sûr et de sanctionner ceux qui ne parviennent pas à éloigner les armes des enfants ou des criminels. On sait que 10% des fusillades impliquent une arme volée. Il propose aussi d'interdire la vente de chargeurs à grande capacité qui sont utilisés dans une fusillade sur 5. Et enfin, de mieux tenir compte des signaux d'alerte en permettant aux tribunaux, comme c'est le cas dans certains États, de retirer temporairement les armes des personnes qui sont jugées dangereuses. Dans près de la moitié des cas, le tireur a fait part en amont de son intention de nuire. Et dans plus de 3 fusillades sur 10, l'agresseur était connu pour être suicidaire.
Et oui, sauf que la grande majorité des élus républicains, Sébastien, est hostile à toute restriction sur les armes.
Et ils en font même ouvertement la promotion, comme récemment via un spot publicitaire à la télé de la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey.
For years, I've held a gun permit.
La gouverneure de 77 ans explique qu'elle a un permis de port d'armes depuis des années pour sa sécurité, que le second amendement est sacré, qu'elle veut que les habitants de l'Alabama, son État, puissent s'armer sans interférence du gouvernement. Alors elle vide son sac à main en montrant ce qu'elle a à l'intérieur. Du rouge à lèvres, un iPhone. Et un petit Smith et Wesson 38, voilà. Il y a encore eu 7 fusillades, vous l'avez rappelé, de masse ce week-end dans le pays. Quand on parle de masse, c'est au moins 4 morts ou blessés, notamment à Philadelphie et à Chattanooga dans le Tennessee. Bilan, au moins 12 morts et plus de 50 blessés ces dernières 48 heures.
Voilà, les Américains appellent ça le pistolet du samedi soir, le truc qu'on a dans son sac et qu'on peut sortir au cas où. Allez, ça va un peu mieux sur le front du lait pour bébé, Sébastien.
Et ça devrait aller de mieux en mieux. Vous vous souvenez qu'on a parlé ici même il y a quelques semaines du pont aérien mis en place avec l'Europe pour faire venir du lait pour bébé de ce côté de l'Atlantique. C'était notamment à cause de l'arrêt d'une des usines du pays pour des raisons d'hygiène. Eh bien, cette usine Abbott de Sturgis dans le Michigan a redémarré samedi. 4 entreprises contrôlent ici 90% de l'approvisionnement de lait pour bébé, 40% pour cette marque Abbott. Et le fabricant annonce donc le retour de ses premiers produits dans les rayons des supermarchés américains d'ici 2 semaines.
Allez, on termine avec le Spelling Bee Contest.
Ouais, concours qui remonte aux années 20 aux États-Unis, sorte de dictée simplifiée puisqu'il s'agit d'épeler le plus de mots possible correctement en un temps donné. En l'occurrence, en 90 secondes pour le concours national des 7-15 ans qui avait lieu la semaine dernière. Écoutez.
Your first word is spielbone.
S-P-E-A-L-B-O-N-E.
Ah oui.
Freatophyte.
Okay. Cet élève, 14 ans, Arini Logan, elle est en quatrième à San Antonio au Texas et c'est elle qui a gagné. Vous l'entendez, elle a éplé sans faute 21 des 26 mots qu'elle a tenté en 1 minute 30 donc, dont spillbone, ça veut dire osselet. Elle repart avec 50 000 dollars et puis Ouais, c'est pas mal. Et des livres aussi, hein, pour apprendre. Ça vaut le coup d'avoir du vocabulaire. L'an dernier, il y avait une jeune fille qui avait gagné. Elle venait de Louisiane. Elle avait donné un épelé à un nom de plante complètement inconnu, en tout cas de ma part. La Muraya, M-U-2-R-A-Y-A. Et ça avait fait la différence pour elle.
Voilà. M-U-2-R-A-Y-A. Non, il faut le dire hyper vite. Sinon...
Oui, il faut le dire très vite, pardon.
Merci beaucoup. Non, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas mûr. Merci beaucoup, Sébastien. À la semaine prochaine. Salut.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal, Claude Wagner, le cheval de Troie de la Russie en Afrique. On savait que ces paramilitaires étaient au Mali, au Mozambique, en Centrafrique. Eh bien, dans le monde d'après, ce soir avec vous, on voit ce qui se passe au Soudan, où on constate aussi désormais la présence de Wagner.
Oui, il suffit qu'on les signale quelque part, hein, Fabienne, pour que tous les signaux virent au rouge. La présence de Wagner quelque part, nous confiait un spécialiste interrogé pour cette chronique, eh bien, ce n'est jamais, jamais une bonne nouvelle. Et voilà que le New York Times, dans une enquête publiée aujourd'hui, raconte comment cette entreprise de sécurité privée, dirigée donc par Evgeny Prigogine, un proche de Vladimir Poutine, s'est implantée au Soudan, le plus grand pays du monde arabe.
Alors, entre la Russie et le Soudan, Claude, l'histoire est pourtant très ancienne. Hein, tout ça date pas d'hier.
Et oui, ça remonte même à la décolonisation, aux pays non alignés, etc. Enfin bref, les liens se sont renforcés, en tout cas pendant les années de pouvoir du colonel Omar al-Béchir, qui est donc l'ancien dictateur soudanais. À l'époque, le Soudan, terre d'accueil d'Oussama Ben Laden, était, on s'en souvient, le paria de la communauté internationale, placé sur la liste rouge des États soutenant le terrorisme, sous sanctions donc et sous embargo, le Soudan isolé, sauf de la Russie, seul pays qui lui vendait alors des armes. En 2017, Omar al-Béchir a même renforcé ce partenariat avec la Russie en lui offrant des concessions minières et la promesse de l'installation d'une base navale russe en mer Rouge avec 300 soldats et des navires à propulsion nucléaire, histoire de contrer en fait la route de la flotte américaine dans cette zone ô combien stratégique. Je vous rappelle qu'on parle de la mer Rouge avec le golfe d'Aden, le trait d'union entre la Méditerranée et l'immensité de l'océan Indien.
Alors 2017, c'est donc après la première invasion russe en Ukraine en 2014.
Fabienne, vous faites bien de le souligner parce que cette première agression de l'Ukraine, qui a permis donc l'annexion de la Crimée, elle avait fragilisé la Russie, qui s'est donc exposée à des sanctions internationales. Et dès cette époque, Moscou a cherché à contourner l'effet des sanctions en constituant un trésor de guerre. C'est comme ça que la Russie a commencé à chercher des relais d'influence en Afrique, avec son sous-sol riche en matières premières, et notamment en or, valeur refuge. Et patiemment, et sans qu'on s'en rende compte, la Russie, qui était déjà le troisième producteur mondial d'or, a quintuplé ses réserves en obtenant des concessions minières en contrepartie de protection de sécurité, comme au Mali ou en Centrafrique, par exemple.
Et donc au Soudan ?
Et donc au Soudan, par le biais d'une société de prospection minière qui s'appelle M-Invest, et derrière laquelle, qui sait qu'on retrouve, eh bien le fameux monsieur Prigogine, oui, monsieur Wagner. Et quand on parlait de cheval de Troie, c'est tout à fait le résumé de cette stratégie russe en Afrique, liée à extraction minière dans des zones truffées de groupes armés, des terres de trafic avec des frontières poreuses, à une offre parallèle de sécurité qui est bien utile dans ces pays secoués par des coups d'État et dont le pouvoir ne tient qu'à coup de répression. Selon des lanceurs d'alerte cités par le New York Times, des dizaines de tonnes d'or auraient ainsi été exportées clandestinement du Soudan vers la Russie depuis des petits aéroports militarisés à travers le pays. Et des connexions ont aussi lieu avec la Centrafrique voisine où l'État a délégué la sécurité du pays à la force Wagner.
Et Claude, en 2019, une révolution a malgré tout chassé Omar al-Béchir du pouvoir.
Oui, et vous savez que la rue soudanaise, elle a quand même essayé d'empêcher que les militaires ne reprennent le pouvoir à leur seul profit, mais ceux-ci ont eu raison du pouvoir civil et ils ont repris la main. Et c'est ça qui fait les affaires de Wagner, parce que parmi ces militaires, le véritable homme fort de Khartoum, c'est le vice-président du Conseil souverain de transition, Mohamed Hamdan Doglo. C'est un pilier de l'époque Béchir. Il était à la tête des milices Janjaweed lors de la guerre du Darfour, et cet homme, eh bien, il dirige aujourd'hui la RSF, une force paramilitaire, une force entraînée par qui, Fabienne ? La force Wagner, là encore. Et on voit comment Wagner, la pieuvre russe, du Mali au Soudan, a donc réussi à étendre ses tentacules d'un bout à l'autre de tout un continent.
Le monde d'après et Claude Guibal, merci beaucoup Claude. Pour nous, ça continue le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly, après le téléphone sonne juste après. Merci de passer la soirée avec nous, à tout de suite.